grand angle.
Vous êtes bien sur Radio Orient, avec vous Marc-Aurel Barrez. Le grand angle de ce jour, la guerre se poursuit au Moyen-Orient entre l'Iran et la coalition israélo-américaine. L'occasion de revenir sur la stratégie militaire de l'Iran, hiérarchie décentralisée, utilisation massive des drones et ciblage des pays du Golfe. On voit ça avec Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier français. Bonjour Guillaume Ancel.
Bonjour.
Ma première question, où en est l'Iran aujourd'hui dans sa guerre vis-à-vis des États-Unis et d'Israël ?
En fait, on voit bien qu'il y a une incohérence entre ce qu'affirme Donald Trump en disant « j'ai quasiment gagné » et puis de toute façon, il n'y a plus rien à détruire en Iran. Donc, selon lui, c'est fini, quoi. Les Iraniens ne peuvent plus se défendre. Et puis la réalité, le président français l'a dit hier avec un peu de moquerie, ce n'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour voir que l'Iran continue à tirer tous les jours sur les pays du Golfe et sur Israël, y compris à partir du Liban. Donc, il n'y a pas de réalité à ce qu'affirme Trump. Et c'est bien là le sujet, c'est que, en fait, Trump a manifestement lancé cette opération en espérant que ce soit une opération militaire spéciale, une guerre éclair qui soumettrait immédiatement le régime iranien. Et il pouvait, plutôt, il a pris ses désirs pour des réalités avec la frappe de décapitation qui a commencé cette opération, où dès le premier jour, on a une cinquantaine de dirigeants du régime qui ont été tués, plus une cinquantaine d'autres qui ont été très gravement blessés. Et donc Trump a pu estimer que le régime était détruit. Mais la réalité, c'est que le régime des Mollahs, d'abord, avait prévu pendant des décennies de se préparer à une opération de ce type, et que par ailleurs, ils ont deux armes qui changent la donne. Ils ont les drones, qui sont quasiment impossibles à détruire en tant que stock. Autant les Israéliens et les Américains peuvent se faire croire qu'ils ont détruit l'essentiel des missiles iraniens, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai, mais en tout cas, ils savent qu'il y a un nombre limité, malgré tout, de missiles. Et les drones, il y en a des dizaines de milliers, et ça se camoufle dans un simple garage, voire dans une boîte en bois. Donc, se dire qu'ils vont détruire toute capacité de nuisance de la part du régime des Mollahs, c'est une ineptie. Et comme la coalition américano-israélienne n'a pas les moyens d'une opération terrestre, mais en fait, son opération militaire, elle reste limitée, surtout si on la rapporte à la taille de l'Iran, qui est quand même un pays qui est trois fois grand comme la France. Et par conséquent, même sa puissance de bombardement, finalement, a des effets relativement limités.
Comment, face aux attaques sur les hauts responsables du régime iranien, les attaques des États-Unis et d'Israël, hein, qui par exemple ont touché et tué l'ayatollah Khamenei, comment est-ce que l'appareil d'État s'est construit pour faire face à ce type d'attaques ciblées sur les hauts dignitaires du régime ?
En fait, les Iraniens ont été d'un côté surpris par cette opération, ils ont été surpris par la date à laquelle ça a été déclenché, mais évidemment, qui s'attendaient, encore une fois, c'est un régime complètement paranoïaque, hein, ils s'attendaient depuis deux décennies à se faire attaquer. Donc, on savait qu'ils avaient mis en place un système décentralisé de riposte qui permettait, même si l'organisation centrale du commandement était détruite ou abîmée, eh ben, que plusieurs acteurs puissent réagir. Donc, c'est tout simplement un réseau. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un acteur central qui commande tous les autres. Il y a bien une multitude de nœuds, on va appeler ça une mosaïque d'éléments, qui fait que même si une des parties de la mosaïque est détruite, comme dans un réseau, en fait, les informations et les réactions sont quasiment autonomes de la part des autres. C'est ce qui fait que lors des trois premiers jours de l'opération, les Iraniens ont mené une riposte que je qualifierais de très inefficace. Ils ont tiré des centaines de missiles qui ont été plutôt bien interceptés par les Américains et les Israéliens qui s'attendaient parfaitement à cette riposte. Mais en fait, c'est quand les Iraniens ont constaté que leur tir de riposte contre des installations militaires américaines ou israéliennes n'avait quasiment aucun effet, ils ont réalisé que c'était les dommages collatéraux sur le reste de la société, et en particulier dans les pays du Golfe, qui avaient le plus d'effet. Et du coup, ils se sont concentrés dessus. Ils continuent à tirer sur Israël, mais on voit bien qu'ils ne ciblent plus les installations militaires américaines. De toute façon, s'attaquer à l'armée américaine, pour eux, c'est hors de portée. Par contre, semer le chaos, en particulier dans le Golfe, donc notamment, parce que c'est une question cruciale, sur l'approvisionnement en pétrole et en gaz, C'est complètement à leur portée parce qu'on parle beaucoup du détroit d'Ormuz, mais en fait, ils ont tout le golfe Persique, sous leur menace. À partir du moment où ils peuvent tirer sur n'importe quel tanker avec un drone qui est quasiment indétectable et qui est très difficile à détruire avec des moyens proportionnés, c'est-à-dire sans utiliser des missiles Patriot à 1 million de dollars, c'est-à-dire 100 fois plus cher que le drone qu'on veut abattre. Les Iraniens ont réussi à mettre le feu à deux tankers qui étaient au large de l'Irak, ils n'étaient pas du tout dans le détroit d'Ormuz, mais les ont attaqués avec des drones. Et en fait, ces tankers ont brûlé pour les compagnies maritimes, mais c'est une perte terrible. Là, les Américains voient le prix de l'essence monter à la pompe, tout simplement chez eux. Le monde s'affolait en se disant, en commençant à faire ses calculs, mais qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a un choc pétrolier? Donc, ça va avoir un effet sur les bourses et sur les marchés. Et en fait, c'est ça qui va obliger Trump à prendre une décision très vite. À mon avis, on est à 2 semaines du début de l'opération. Peut-être qu'il lui reste 2 semaines.
Au cœur de la stratégie de l'Iran, on trouve ces drones Shahed, qui sont relativement abordables, qui causent de gros dégâts, qui sont utilisés, qui ont été utilisés de manière massive dans le Golfe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ces appareils ?
De penser qu'avec simplement une offensive aérienne, le régime allait être détruit, en réalité, il a été décapité, mais il se régénère progressivement, il est affaibli, mais il n'est absolument pas par terre. Et un des leviers qui lui permet de ne pas être par terre, ce sont ces drones, parce que les drones sont par nature difficiles à détecter. Ce sont des toutes petites cibles, c'est 10 à 50 fois moins important qu'un missile. C'est facile à construire, ça peut être fabriqué dans un atelier qui ressemble à un garage. Et surtout, ça peut être stocké et tiré à partir justement d'un simple… On n'a même pas besoin d'un hangar. Ça peut être le simple garage dans une maison, ça peut être un bateau, y compris d'ailleurs un bateau qui naviguerait sur les côtes américaines. Ça peut être une boîte, un caisson maritime qui s'ouvre et qui laisse partir un drone qui a été préprogrammé. Donc, c'est impossible d'imaginer qu'en fait, on puisse détruire le stock de drones des Iraniens. Bon, on sait qu'ils en ont fabriqué des dizaines de milliers d'exemplaires, puisqu'ils en ont livré des centaines de milliers aux Russes pour la guerre en Ukraine. Le seul moyen de stopper cette menace, en fait, c'est de dealer avec le régime ou de le renverser. Et c'est ça les deux options qu'aura Donald Trump d'ici 15 jours, c'est de dire « je m'arrête, je raconte à tout le monde que j'ai gagné la guerre, il fera comme Poutine, mais en réalité il aura dealé avec le gouvernement, le régime des Mollahs qu'il consacrera au pouvoir, ou alors, et c'est ce qu'il espère encore, il y a une force en Iran qui prend le relais et qui renverse les gardiens de la révolution. Mais la seule force qui est capable de faire ça, c'est l'armée iranienne. Armée iranienne qui, à mon avis, à ce stade, hésite parce qu'elle sait que c'est un combat existentiel qu'elle mènerait contre le régime des Mollahs, contre les gardiens de la révolution, qui sont mieux armés et mieux équipés que l'armée iranienne. Donc c'est un pari sur l'avenir avec une accélération de la course. Et en réalité, le point central de cette guerre, ce n'est pas le détroit d'Ormuz, ce n'est même pas les drones, c'est le temps.
Alors justement, c'était ma dernière question. À qui profite le temps aujourd'hui ?
En fait, le temps profite clairement au régime des Mollahs. Pourquoi ? Parce que les Américains, Donald Trump en particulier, ne peut pas soutenir longtemps une guerre qui a un impact sur son électorat. Le prix de l'essence augmente. Il avait promis à sa base électorale qui ne se lancerait plus dans des aventures militaires. Il y a déjà eu 7 morts du côté américain. C'est peu, mais n'empêche que les Américains ne comprennent pas. Et donc, lui, il faut que la guerre se termine le plus tôt possible, probablement en moins de 4 semaines, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts avant les élections américaines de mi-terme qui arrivent en novembre. Et donc, dans la campagne, finalement, est déjà quasiment commencée. Et de l'autre côté, les Iraniens, s'ils arrivent à gagner du temps, obligent Trump à dealer avec le régime actuel, c'est-à-dire à faire perdurer le régime des Mollahs. Pourquoi ? Parce que plus il se passera de temps, et plus les Américains seront embêtés des conséquences de ce qu'ils sont en train de faire, et donc ils passeront un deal avec ce régime en disant qu'ils l'ont beaucoup affaibli, qu'ils ont détruit des trucs formidables, etc. Mais la réalité, c'est que cette dictature des Mollahs continuerait, alors qu'elle règne déjà depuis 50 ans, après 25 ans de la dictature du Shah.
Merci Guillaume Ancel.
Merci.
Je rappelle que vous êtes écrivain, ancien officier français et spécialiste des questions géopolitiques. Vous écrivez sur votre blog Ne pas subir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et très bonne suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.